Weezer qui chante une chanson de Noël, ça se prend bien. Au moins, ça fait différent des classiques. Tes grands classiques de Noël, toi, Jeff, c'est quoi, mettons, en termes d'artistes?
Oh, en termes d'artistes de Noël, hey, je vais t'avouer que j'écoute vraiment pas beaucoup de chansons de Noël.
Non?
Non.
Jamais?
Très rarement.
Même pas pour te mettre dans l'ambiance avec les enfants?
Non, je dois avouer que non. Je suis pas.
Non. Moi, vieillissant, ça devient de plus en plus absurde. Je te dirais qu'un genre de soirée canadienne sur repeat, ça me fait ben rire, là, que ce soit des grands classiques bien connus, un genre de, je sais pas moi, Joël Legendre, là, à soirée canadienne, ça me fait ben plaisir. Puis je pense que ça va être de pire en pire parce que justement, c'est ça qui me fait rire. Hey, Joël, écoute ça.
Mon revenant de Sainte-Hélène, ferme dans ta boîte, laisse-moi te chanter.
J'ai le goût d'aller veiller.
J'ai vu d'abord, puis j'ai touché encore. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard
Sans que tu le saches, il y avait un petit lien vers la suite des choses parce que si tu as bien entendu la chanson
ben oui,
de la
soirée
canadienne, on parle de loup. Et il y a quelque chose dans l'imaginaire de tous et chacun, c'est à quel point le loup, c'est l'emblème du mal dans les contes, c'est le méchant. Le loup fait peur, mais il est majestueux, par exemple. Louveteau, il est très, très cute. Puis ça a fait en sorte qu'il y a bien des gens qui ont écouté la belle histoire du refuge Pajot. Moi, je veux pas trop en dire. Je veux qu'on aille rejoindre le plus rapidement possible notre invité qui est au bout du fil. Parce que ben, le refuge Pajot, c'est pas très près de Québec, mais quand même, ça commence à être très, très connu parce que des gens comme Marie-Frédérique Frigon qui fait connaître le refuge. Salut Marie-Frédérique!
Salut!
Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va très bien. J'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup de popularité ces temps-ci. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers le refuge Pajot pour cette histoire-là de louveteau que vous avez trouvé dans un terrier et que vous avez amené à maturité ou presque maturité, en fait, et que vous avez peut-être ou pas, selon l'histoire que tu vas nous raconter, réussi à réintégrer dans la nature sauvage. Là, il y a du monde qui nous écoute, qui se dit « Ben voyons donc, il me semble qu'il ne faudrait pas toucher à ça, la nature, d'un coup, qu'on brise un peu leur capacité à vivre avec d'autres bêtes de la forêt. Peux-tu partir de la base puis nous raconter cette histoire-là, s'il te plaît?
Oui, bien, en fait, c'est pas le refuge là, qui a trouvé les louveteaux. C'est des gens qui ont été alertés par les pleurs parce que les bébés, c'est ça, ça faisait un bout de temps probablement qu'ils étaient tout seuls. Les gens qui étaient en forêt à ce moment-là, à leur camp, ont entendu pleurer puis ils se sont demandé ce qui se passait. Ils ont trouvé le terrier. Ils ont surveillé par caméra pendant 3 jours pour être sûr qu'il n'y avait pas d'adultes qui allaient au terrier. Puis c'est à ce moment-là, là, quand au bout de 3 jours, ils ont vu qu'il n'y avait aucune activité, qu'ils ont pris la décision d'aller voir dans le trou. Ils ont constaté qu'un louveteau était mort déjà. Puis à ce moment-là, ils les ont récupérés puis ils les ont apportés au refuge.
Parce qu'ils se sont dit que les autres risquaient la même finalité, finalement, de mourir si jamais on n'opérait pas un genre d'opération sauvetage?
Oui, exactement. Puis tu sais, nous, c'est ce qu'on fait au refuge-là, on a une belle attention parce que c'est des louveteaux, c'est spécial, les gens sont, il y a comme une espèce d'aura mystique autour du loup, là, les gens sont tout le temps vraiment super intéressés, mais à la base, c'est ce qu'on fait pour toutes les espèces, on le fait pour des marmottes, pour des ratons laveurs, pour des écureuils en majorité, mais pour les loups, c'est sûr que ça apporte une belle attention. Là.
Mais, tu sais, vous faites ça, vous autres, c'est votre métier. Il y a quand même des bases à respecter parce que ça pourrait mettre encore plus ces espèces-là en danger si jamais Jeff ou moi ou n'importe qui décide de s'occuper de ces louveteaux-là qui sont à risque de mourir.
Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, il y a des méthodes à respecter quand même. Puis pour ces petits-là, c'était la première fois qu'on faisait ça là, avec des loups. C'est une espèce qui est particulière. Chez la plupart des espèces des animaux sauvages, faut toujours faire attention, puis il faut garder en tête que le pire ennemi, en fait, le prédateur de tout le monde en forêt, c'est l'humain. Fait qu'il faut que ces animaux-là conservent leur part naturelle quand même de l'homme. Puis bien, le loup, comme c'est un animal qui est une espèce qui est plutôt sociale, qui se tient en groupe, qui est régulière, bien, faut être d'autant plus vigilant, puis faire d'autant plus attention dans nos manipulations, les réduire vraiment au maximum, même s'ils sont beaux, même si on a le goût de les caresser puis de les briquer parce qu'ils sont trop cute. Tu sais, faut vraiment éviter de faire ça parce qu'il faut que ces animaux-là continuent de penser à raison qu'on est la bubite la plus dangereuse pour eux.
Marie-Frédérique, est-ce que quand vous recevez justement ces 8 louveteaux-là, est-ce que vous êtes déjà équipé pour ça ou là vous dites OK, ouais, comment je ferais? Je me souviens d'avoir vu des images là, où les 8 doivent au biberon puis c'est dans une espèce de soc de bois. T'sais. Est-ce que vous avez fabriqué des choses? Vous aviez déjà ça? Comment vous avez fonctionné?
On en avait déjà pour d'autres espèces. C'était pas. On n'en avait pas en particulier pour le loup, parce que c'est vraiment pas un animal qu'on accueille souvent. Mais c'est déjà des outils dont on se servait pour des ratons laveurs ou pour des marmottes. Donc, on a adapté finalement la construction de ces supports à biberon-là pour les loups. Dans le fond, quand on les a reçus, la première chose qu'on a fait, c'est ça. C'est des louveteaux qui étaient âgés d'à peu près 2 semaines et demie, peut-être 3 semaines, qui avaient les yeux qui étaient nouvellement ouverts, puis qui commençaient à pouvoir bouger eux-mêmes, puis à pouvoir se déplacer eux-mêmes. Donc, rapidement, on les a initiés au support à biberon pour qu'ils vraiment s'alimentent de manière autonome, là, qu'on n'ait pas besoin de les manipuler à chaque fois qu'on doit les alimenter. Puis, c'est ce qu'on a vraiment fait en premier dans l'esprit tout le temps d'avoir le moins possible de contact positif avec eux.
Oui, parce que ça fait vraiment partie intégrante de votre quête, là, de prendre en compte que ces animaux-là, il ne faut pas qu'ils s'habituent à vous parce qu'ensuite, quand vous allez tenter de les remettre en forêt, si jamais vous tentez, ben ils vont être trop habitués, ils vont mourir là, dans cet environnement-là où l'humain ne leur attribue pas et ne leur donne pas ce qu'ils ont besoin. Si on part de leur arrivée jusqu'au moment où vous avez tenté de les remettre en forêt. Ça a été quoi les étapes? Vous les voyez pas, vous les touchiez pas non plus?
Non, ben les premiers jours, oui. Tu sais, on a dû les habituer au support à biberon. Donc, les premiers jours, on devait un peu les manipuler pour les enligner vers la tétine comme il faut, tu sais, qu'ils comprennent, parce que c'est ça, ils ont le réflexe de téter, mais ils ont le réflexe de téter après leur maman. Puis là, c'est sûr que la tétine en caoutchouc, c'est pas la même chose pour eux. Il faut qu'ils comprennent quand même qu'il y a du lait qui va sortir de là, puis que c'est par là qu'il faut qu'ils s'alimentent. Fait que ça a pris à peu près, tu sais, c'est pas très long, là. En général, les bébés comprennent rapidement. Donc, ça a pris 2-3 jours, là, où on a eu besoin de les replacer, puis de s'assurer que tout le monde s'accroche bien, puis qui boivent bien. Puis après ça, ben là, on a vraiment pu couper complètement les manipulations. Donc, on préparait les bouteilles de lait, on les installait dans nos supports à biberon, puis tout ce qu'on avait à faire, c'est aller déposer les supports à biberon. Puis après ça, ben tranquillement, on a migré vers le sevrage. Donc, on a commencé à mettre du lait dans de la nourriture solide. Puis, on a adapté des box qu'on a en zone d'isolement au refuge. On a fait des trous dans nos portes pour vraiment faire des trappes. Dans un box qui était double, on pouvait nourrir d'un côté, dans la porte de droite, par exemple, là, on nourrissait par la trappe. Donc, on ouvrait la trappe, déposait la nourriture. Les louveteaux, quand ils entendaient la trappe, ils avaient quand même développé le réflexe de se diriger vers cet endroit-là parce qu'ils savaient que la nourriture s'en venait là. À ce moment-là, on pouvait fermer la porte au milieu des deux box, faire notre ménage à gauche, puis inversement le lendemain. Fait que comme ça, on n'avait vraiment pas de contact du tout. T'sais, on pouvait surveiller leur croissance par des vitres par lesquelles nous, on voit de notre côté, mais eux ne voyaient pas. C'est un peu comme le principe d'un miroir sans fin dans une salle d'interrogatoire, par exemple. Puis comme ça, on pouvait surveiller leur croissance, s'assurer que tout le monde est beau, tout le monde va bien, mais sans jamais les voir ou les manipuler directement.
Marie-Frédérique, comment on faisait, parce que les loups, ça vit à l'extérieur, comment on faisait pour leur faire profiter de l'extérieur sans entrer en contact avec eux, sans les amener dehors?
Bien, on les a amenés dehors, mais tu sais, ça a été une manipulation un jour. Comme ça, on a pu aussi s'assurer que tout le monde était correct en forme. On les a capturés dans leur box intérieur pour les transférer en enclos extérieur. L'enclos aussi avait été aménagé pour éviter que les louveteaux nous voient arriver. Donc, on avait vraiment tout voilé, là, l'ensemble du côté de l'enclos par lequel on arrive pour les nourrir. On a fait une trappe aussi dans la porte. Donc, on les nourrissait encore une fois par une trappe. Donc, encore là, les louveteaux ne nous voyaient pas du tout. On allait quand même nettoyer cet enclos-là parce que, tu sais, c'est des louveteaux dans un enclos, ouais, qui mangent des carcasses de castors éventuellement. Ouf! Pour aller faire le ménage. Fait qu'on y allait. Normalement, on fait ça. Tous nos enclos au refuge sont nettoyés quotidiennement, voire 2 fois par jour. Dans leur cas, à eux, on y allait aux 2 semaines.
Okay.
C'était vraiment une horrible tâche quand on y allait.
Oh, c'est sûr! Et bien, pour la réintégration, tu sais, ça, c'était nécessaire d'y aller par étapes.
Oui, c'était important qu'ils ne nous voient pas souvent, puis que, tu sais, quand on y va, qu'on soit encore épeurant, puis ça fonctionnait, là. vraiment super bien. Je veux dire, quand on rentrait pour aller faire le ménage, tout le monde s'en allait dans un coin, puis il sautait sa tête un jour.
Il était apeuré.
Il trouvait un moyen de sortir. Là. Il avait vraiment peur de nous.
Puis à un moment donné, ils ont grandi, ces louveteaux-là, puis votre mission initiale, c'était de les ramener, les rapporter dans la forêt, puis qu'ils réussissent à survivre. Est-ce que ça a fonctionné? Comment vous êtes pris?
Bien, on s'est beaucoup posé de questions. Encore une fois, c'était une première. Fait qu'on savait pas trop comment puis quand le faire. On pensait au début les garder pour un an parce qu'on se disait que bon, on va les amener vraiment à maturité, s'assurer qu'ils soient complètement autonomes avant de les remettre en liberté. Puis finalement, en discutant avec un biologiste à la retraite qui collabore souvent avec nous, puis qui, par un heureux hasard, connaissait la meute d'où les louveteaux venaient, quand on lui a expliqué l'endroit là où les gens l'avaient trouvé, la position exacte en forêt, c'est un biologiste retraité qui a travaillé au ministère longtemps, il nous a dit « Ah, mais cette meute-là, je la connais, je suis allée l'observer souvent, je sais ils sont où, je connais à peu près leur déplacement. »
Fascinant.
Et puis, il nous a suggéré d'aller faire de l'observation terrain pour aller voir si les adultes étaient encore présents sur le territoire. Donc, comme il savait un peu les va-et-vient des adultes, ben il a dit « je vais aller voir s'ils sont encore là ». Ce qu'on pourrait essayer, c'est de les réintégrer cet été, donc quand ils sont encore bébés, adolescents, pour que les adultes puissent terminer leur éducation finalement. Parce que normalement, dans une meute de loups, la maman, elle s'occupe de l'allaitement jusqu'au sevrage, mais après ça, la meute prend le relais puis tout le monde s'occupe un peu des petits. Donc, c'était un peu le principe qu'on a voulu imiter avec eux. Là. Quand les petits ont été plus autonomes, puis que Pierre a pu confirmer que les loups étaient encore là puis encore actifs sur le territoire, ben on a pris la décision d'aller les reporter en forêt avec une grosse inquiétude sur le cœur quand même, parce que tu sais, ils étaient jeunes. T'sais, il était rendu assez grand et débrouillard, mais quand même jeune pour être laissé à eux-mêmes dans le bois.
Mais il aurait pu être rejeté là, par la meute. Là.
Il aurait pu être rejeté, il aurait pu être vraiment vu comme des ennemis ou des compétiteurs.
Mmh. Ben, parce que les autres loups qui ont toujours vécu à l'état sauvage, ils auraient peut-être remarqué des comportements de ces louveteaux-là, ben, qui étaient rendus plus grands quand même, puis à maturité, semi-maturité, mais et dire, voyons, c'est quoi ces extraterrestres-là? T'sais, il y aurait peut-être eu un manque de communication?
Ça aurait pu arriver. On aurait pu vraiment, vraiment se tromper. Puis quand on a pris la décision puis qu'on est parti avec eux le 6 août, on est parti aux petites heures du matin pour s'assurer d'aller les remettre chez eux le plus tôt possible dans la journée, parce qu'il faut pas qu'il fasse trop chaud. Le danger dans les déplacements comme ça, c'est tout le temps la chaleur, parce qu'ils sont très nerveux, ils vont hyperventiler. Fait que pour les animaux, c'est important qu'on y ait le plus tôt possible dans la journée quand on est en été comme ça. Puis bon, quand on est parti là-bas, qu'on a retrouvé l'emplacement, qu'on a ouvert le trailer proche de leur tanière, puis qu'on les a regardés partir, on était comme fiers de les amener là, puis de voir qu'ils avaient encore vraiment peur de nous, mais on avait aussi la chienne de faire une grave erreur puis de les envoyer à leur mort. T'sais, on savait pas du tout ce qu'on faisait à ce moment-là.
Marie-Frédérique, finalement, si tu nous parles, c'est que ça s'est bien passé. Les autres loups dans la meute les ont bien accueillis, ces jeunes louveteaux-là. Est-ce que c'est le défi le plus complexe que vous avez vécu au refuge? Parce que c'est quand même 8 en même temps, corps-mort nature, plus rapidement que prévu, avec plein d'émotions à travers ça.
Cette histoire-là en particulier, ces louveteaux-là, puis Hope, l'orignal aussi, là, une jeune femelle orignale qu'on avait reçue tout petite, c'est les deux histoires vraiment qui nous rendent quelque part le plus fiers, parce que c'est des belles réussites, puis c'est des animaux qui sont vraiment difficiles à réhabiliter, qui sont pas... ça se fait pas souvent, ça se voit à peu près pas, parce que c'est quand même rare d'en recevoir en temps de réhabilitation, puis c'est des grands animaux qui ont un potentiel de dangerosité, des fois qui peuvent être plus grands. Mm-hmm. Mais oui, les louveteaux, ça a bien fonctionné. Pierre est retourné installer des caméras plus tard sur le territoire pour pouvoir observer ce qui se passait. Puis ce qu'on a vu à notre plus grand bonheur, c'est des louveteaux qui partageaient le territoire avec les adultes, qui les suivaient, qui bénéficiaient de la chasse aussi. On le voit sur plusieurs images, là, ils ont la panse bien ronde, bien remplie. Donc, vraiment, tout le monde, tout va bien. Là. On ne pouvait pas espérer meilleur scénario.
Il n'y a pas un petit canard boiteux, là, un chétif qui reste derrière dans la meute. Tout le monde a réintégré la meute?
Bien, c'est ce qui semble être le cas là, en voie. Avec les, c'est sûr qu'on n'est pas sur place, on peut pas les voir directement, mais tout ce qu'on voit sur les caméras,
c'est
des louveteaux en pleine santé, puis qui suivent les adultes là, comme on l'espérait finalement. C'est un scénario parfait.
Ils sont vraiment vraiment tous dans la meute.
Ben c'est pas tous là, c'est ça. Il y en a un en fait quand on a transféré les louveteaux en enclos extérieur, donc la journée où on a capturer les louveteaux en dedans puis qu'on les a transférés à l'extérieur. On en a un qui avait un comportement qui était complètement à l'opposé de celui de ses frères et de sa sœur. En fait, on avait 7 mâles et une femelle. Puis il y en a un qui était content de nous voir puis on se l'explique absolument pas. Ça avait rien à voir avec les autres puis il a passé à travers toutes les mêmes étapes. Il n'y a eu aucun contact de plus avec les soigneurs que les autres louveteaux. Ce n'est pas parce qu'il était plus magané et qu'on l'a sorti ou qu'on. Mais quand on les a transférés en emploi extérieur, quand il est sorti de son transporteur, la première chose qu'il a faite, c'est pas de s'en aller se cacher dans le foin loin comme ses frères et sa sœur, c'était de se rouler entre nos jambes, de nous faire de la grosse façon.
Comme
quand on est revenu avec la deuxième batch de louveteaux, il rentrait dans les transporteurs, il ressortait, il venait nous voir, il nous filait après.
On était
figés, on ne savait pas quoi faire. Sur le coup, on est ressorti puis on y a laissé un 2 heures à l'extérieur en se disant on va voir comment les choses évoluent, puis tu sais, c'était peut-être anecdotique. Puis quand on a montré les images à notre directeur, en fait, parce qu'on l'avait filmé, lui, il a dit, okay, non, c'est pas, on le sort de là, il est en train de montrer ce qu'il faut pas faire à ses frères puis à sa sœur.
Il gâchait votre travail. Lui, il était vraiment fait pour vous côtoyer, au final. Vous l'avez encore avec vous, là. Il y a personne qui a été blessé ou rien?
On a fini par le sortir, puis quand on est retourné les 2 heures plus tard, il est arrivé à la course pour venir nous retrouver.
Ben, voyons donc.
Puis il est encore vraiment complètement insouciant. On n'a jamais eu au refuge un loup qui a ce comportement-là envers l'humain. T'sais, on en a d'autres meutes de loups qui sont arrivés, des petits orphelins qui sont arrivés encore plus jeunes, puis qu'on a dû garder à long terme, parce que les ayant eus à 2 jours de vie à peine, il n'y avait pas possibilité pour nous de les remettre en liberté. Mais dans son cas à lui, peu importe qui arrive au refuge, qu'il connaisse ou qu'il ne connaisse pas, il aime les humains, mais d'une manière qu'on n'a jamais vue auparavant là, chez le loup.
Inexpliqué. Hey, en 30 secondes, Marie-Frédérique Frigon du Refuge Pajot, la finalité de ça, est-ce que vous prenez quand même vos précautions face à un loup? Parce que même si un comportement plus domestique,
ça reste un loup?
Ah, ça reste un loup, oui. C'est ça qu'il faut faire, tu sais, faut garder en tête que c'est pas un chien, puis c'est même avec un chien, quelque part, il faut quand même respecter puis écouter son non-verbal. Fait que c'est la même chose, en fait, pour tous les animaux, là. Faut garder en tête que c'est des individus à part entière qui ont des volontés, eux aussi, qu'il faut les respecter dans leur espace puis dans ce qu'ils veulent. Puis en général, comme ça se passe bien.
Merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire-là. Puis surtout, bravo, félicitations.
Tellement.
Merci.
Félicitations aussi pour l'avoir fait avec le biologiste dont vous avez parlé. C'est important, ça. C'est des affaires qu'on ne sait pas. Puis on invite les gens qui étaient à l'écoute. Là, et ça a monté là, sur Twitch. Tout le monde était là. Il y avait des questions, puis ont été répondues au fil et à mesure que tu racontais l'histoire. Mais on peut aller voir votre Instagram, puis on peut aller voir justement l'image de cette, je sais pas moi, ce sauvetage-là, cette aventure-là avec les louveteaux.
Vous l'avez
documenté. C'est tout ça à la fois. Merci Marie-Frédérique Frigon du Refuge Pajot. Puis n'hésitez pas à en faire des vidéos comme ça. Ça nous a vraiment touchés. Même on parlait avec des collègues ce matin, puis ils étaient jaloux qu'on vous reçoive.
Ah! Ben, merci beaucoup. C'est gentil de vous être intéressé aussi à cette histoire-là. C'est notre travail, puis on est fiers de le faire.
Joyeuse fête.
Salut.
Merci à vous aussi. Bye bye.
fascinant.
Incroyable histoire.
Quel travail. Moi, j'avais tellement peur quand j'ai commencé à regarder la vidéo que justement, ça fonctionne pas parce qu'ils se sont habitués aux humains. Puis je me disais, Pascal, fais-toi pas d'idée. T'sais, au début, je me disais, tu vas être triste à la fin.
Ou qu'il y en a deux qui n'ont pas survécu. Oui. C'était toutes mes. Moi aussi, c'était mes. Comment je pourrais dire, mes craintes.
Oui.
Quand je regardais ça, puis finalement, tout finit bien. Puis le loup qui reste comme un chien, là, je vais le mettre comme ça,
entre guillemets. On comprend finalement que vraiment le chien.
On le voit, là, il joue avec des jouets comme un berger allemand. Là.
Fascinant. Allez voir ça.
Capoté.
Refuge Pageau sur Instagram. On prend une courte pause. On revient pour la finalité de l'émission, hein, Jeff?
Oui, en plein ça.
On va être à la fin. Yeah. Caravane. Cherche le trouble. Voyons, t'as chose. Pourquoi on n'a pas ça d'habitude dans la programmation musicale?
Entre Marceau, là.
Ça me semble ça fit.
Cherche le trouble.
Cherche le trouble, Caravane à Boulevard 102.1.